Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des jeudis de l'économie consacré aujourd'hui à l'EGC, l'école de gestion et de commerce du Pacifique Sud. Une école qui commence à être bien connue en Nouvelle-Calédonie et qui recrute actuellement ses futurs élèves, nous en parlerons. C'est une école surtout qui veut adapter son enseignement pédagogique aux besoins des entreprises du territoire. Et nous allons parler en compagnie de sa directrice, Sophie Golfier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Un étudiant en première année, Marius Baudéou-Harou. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, vous aussi. Vous nous ferez part de votre expérience et de votre première année d'études à l'EGC. L'un des formateurs de l'école, Jean-Christophe Rambeau. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, Philippe Darasson, le président du cluster maritime. Et vous nous direz en quoi l'économie bleue et l'EGC, ça peut se parler. Bonjour.
Bonjour, Elisabeth.
Alors, tout d'abord, un peu d'histoire, Sophie Golfier. Quand a été créé l'EGC? Et pourquoi? On a l'impression qu'elle existe depuis toujours dans le paysage calédonien.
Effectivement, elle fait partie du panorama des formations supérieures en Nouvelle-Calédonie. Elle a été créée il y a 35 ans exactement. Donc c'est une école qui a été créée par la Chambre de commerce et d'industrie pour former des cadres en entreprise, cadres intermédiaires, managers, et de plus en plus des créateurs d'entreprises.
Alors quel bilan aujourd'hui, déjà au bout de 36 ans, combien d'élèves ont été formés à l'EGC? Est-ce que ça répond aux besoins que vous, qui avaient été fixés à l'origine?
Alors les élèves, les anciens élèves, on les appelle les alumni. Ces alumni, on les a répertoriés, on sait qu'on a plus de 740 alumni anciens. Dans ces 740 étudiants depuis 35 ans, on sait qu'on a près de un peu plus de 60% de ces étudiants qui sont actuellement en poste en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un taux qui est intéressant pour les entreprises calédoniennes.
Voilà pour ce premier bilan. Alors c'est quoi la spécificité de l'EGC? Je disais, la vocation à répondre aux besoins un peu de l'économie des entreprises de la Nouvelle-Calédonie. En quoi est-ce qu'elle est particulière, cette école de commerce?
Elle est particulière parce que déjà, c'est la première et la seule école de commerce en Nouvelle-Calédonie qui a une longévité. Elle a un ADN tout particulier et elle a su s'adapter au fur et à mesure en fonction des besoins des entreprises. Au départ, c'était un besoin de cadres intermédiaires. Aujourd'hui, c'est un besoin de cadres visionnaires, on va dire. C'est-à-dire de cadres qui savent s'adapter avec des contextes que l'on connaît, qui sont changeants, où on doit aujourd'hui faire preuve de créativité et être, en plus des compétences classiques de management, de communication, de marketing, de finance, de gestion, en plus de ça, avoir d'autres qualités qui permettent de réussir dans sa fonction.
Il y a des formations concurrentes, entre guillemets, en Nouvelle-Calédonie. Il y a d'autres possibilités de suivre ce cursus d'école de commerce?
Alors, en Nouvelle-Calédonie, non, sur le principe, parce que ce n'est pas le même cursus. Effectivement, on a un facteur différenciant, dans le sens où c'est une école entreprise. Donc, on apprend à nos étudiants à travailler en mode projet, ensemble, avec de différents projets. Donc, Marius pourra en témoigner, ça serait intéressant de savoir son point de vue. Donc, ça, c'est la spécificité de l'école. En revanche, oui, il y a beaucoup de concurrence sur des formations Bac plus 3.
Bah, Marius, justement, pourquoi vous avez choisi l'EGC plutôt qu'une autre formation?
Bah moi, j'ai choisi l'EGC tout d'abord parce que c'était une école de commerce, la seule avec Calédonie. Je l'aimais très bien parce qu'elle elle connaissait vraiment le tissu économique calédonien. Je savais qu'avec cette école, je pouvais directement intégrer une entreprise avec en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, pour moi, c'était logique d'intégrer l'EGC. Ça m'a paru... je voulais pas vraiment partir tout de suite après le bac parce que j'étais pas prêt. Et je regarde vraiment pas mon choix. C'est une école que j'apprécie beaucoup. Le réseau qu'elle a et les contacts qu'on a, ce qu'on fait, c'est vraiment intéressant.
Première année maintenant, vous allez continuer le cursus jusqu'au bout.
Oui, jusqu'au bout.
C'est l'objectif. Et ensuite, votre intention, c'est de travailler en Nouvelle-Calédonie?
Mon intention, c'est de travailler en Nouvelle-Calédonie après un master que j'irai faire ailleurs.
Alors, on parle de... On va parler franglais, hein, mais vous allez tout nous expliquer. On parle de soft skills. En bon français, c'est quoi? C'est le comportement humain. Je me tourne vers Jean-Christophe Rambeau. Vous êtes formateur à l'école.
Tout à fait.
Le soft skills, alors c'est quoi?
Soft skills, en deux mots, on va parler d'aptitude transversale. Voilà, il y a vraiment, donc, dans ce bloc, on parle de hard skills, ce qui sont vraiment les compétences métiers d'une personne. Et après, tout ce qui est soft skills, qui sont des compétences également, mais d'autres compétences qu'on développe parallèlement et qui nous permettent de pouvoir également travailler en entreprise avec une autre aptitude.
Ça se développe comment?
Je vais laisser la parole à Madame Golfier pour ça, qui est la référente et la...
Alors, les soft skills, c'est extrêmement important et depuis quelques années, ça se développe. Évidemment, pas qu'en Nouvelle-Calédonie, partout. Et au contraire, nous, en Calédonie, ça commence à se développer. Donc, c'est un terme qui commence à être utilisé même en entreprise et d'autant plus On travaille sur ce sujet pour cela. C'est des compétences que l'on repère dès le recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un recrutement se fait avec le parcours, le diplôme, mais le diplôme ne suffit plus. Pour sélectionner un candidat, il faut voir sa personnalité, ses aptitudes, ses habilités, et comme disait Jean-Christophe, ses compétences transversales ou les compétences douces, parce que soft skills, ça veut dire compétences douces, contrairement à hard skills, qui sont les compétences techniques métiers.
Ça veut dire que c'est des compétences de relations humaines, d'autorité, de capacité de direction, d'imagination, de création, puisque vous disiez on cherche des créateurs aujourd'hui. C'est ça que vous essayez de mesurer ou de former ?
Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur quatre types de compétences, de soft skills. Déjà trouver sa place, c'est-à-dire se positionner. Donc l'étudiant soit en capacité de mieux se connaître, mieux connaître les autres, pour se positionner, être capable d'autonomie, d'introspection. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite c'est convaincre. Convaincre, comment on fait pour convaincre un auditoire, comment on s'y prend, c'est vraiment des talents que l'on a personnellement. Ça va de la maîtrise de soi, l'adaptation ou la prise d'initiative. Ensuite, c'est s'engager. S'engager comment ? Se motiver soi-même. S'engager, avoir de l'enthousiasme, de l'énergie, le sens des responsabilités. Donc voilà ce genre de soft skills. Ensuite, on peut être sur la partie plus interaction avec ce que vous évoquez avec les autres. Donc là, c'est l'intelligence émotionnelle. Après, on est sur la partie innovation, créativité, où là, on doit apprendre à nos jeunes à sortir du cadre, comme on dit, hein, donc avoir des capacités d'imagination, de flexibilité et d'audace. Et enfin, quand on gère une équipe, on a plusieurs types de soft skills, à la fois l'organisation, mais aussi, donc là, ça va la rigueur, la priorisation, la gestion du temps. Mais ensuite, en termes de management, être capable de travailler avec les autres. Et enfin, le leadership, avec différentes soft skills qu'on pourra évoquer dans la partie leadership.
Mais alors, Jean-Christophe Rambeau, comment est-ce qu'on apprend ce genre de choses ? Est-ce que quelqu'un a ses qualités et qu'il faut les travailler ? Ou quelqu'un n'en a peut-être pas du tout ?
Ça arrive. Alors ça se développe, ça s'apprend comme tout. Hein. Comme tout, ça s'apprend. Effectivement, il y a des aptitudes, effectivement, relationnelles, en termes de positivité, de discussion, savoir aller vers l'autre. Mais ça s'apprend. Aujourd'hui, il y a des formations pour ça et on peut les développer personnellement.
Et alors un recruteur, un chef d'entreprise fait vraiment la différence sur ses soft skills ? Est-ce que c'est vraiment ce qui peut changer les choses ?
En tant que chef d'entreprise, car je pense que sincèrement, c'est exactement ce qui manquait à ces formations théoriques, donc le savoir-faire, d'adapter ça et de transformer les jeunes qui rentrent sur le marché du travail avec d'autres types d'outils. Et quand on est face à des jeunes sélectionnés, comment les recruter ? Ils ont tous à peu près le même diplôme, s'ils se présentent à ce poste-là, ils ont tous à peu près la même expérience, à savoir quasiment aucune, parce qu'évidemment, ils sortent, donc à part quelques stages. Donc après, c'est plus sur le savoir-être et l'idée que peut se faire le chef d'entreprise de la manière dont il va pouvoir s'intégrer, dont il va pouvoir travailler en équipe, dont il va pouvoir faire bénéficier de ses connaissances, ses collègues, etc. Donc c'est beaucoup d'aptitudes qui sont propres à la personne et non plus directement liées à la théorie et à ce qu'il a appris. Donc je pense que c'est extrêmement intéressant que ces soft skills soient développés au sein de l'EGC parce que ça va doter les jeunes d'autres types d'outils et des outils que recherche l'entreprise en termes d'adaptabilité des jeunes qui rentrent.
Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir l'avis de Marius, puisqu'on parle des soft skills dès le début de l'entrée à l'EGC. Et Marius, en première année, il y a fait quelques mois à l'EGC, et ça serait intéressant d'avoir son point de vue.
Qu'est-ce que vous avez appris, Marius ? Est-ce que votre comportement, votre relation aux autres, votre confiance en vous, qu'est-ce qui a changé depuis un an ?
Déjà, moi, j'ai développé plusieurs soft skills, comme par exemple oser. J'ose beaucoup plus qu'avant. Je suis engagé dans différents projets, par exemple le séminaire de l'EGC ou... par exemple, le Challenge Startup, on devait créer une entreprise, faire une startup en 3 jours. Et du coup, c'est des projets qui nous rassemblent et qui montrent notre engagement vers une cause ou un projet. Et pour moi, ça a vraiment été quelque chose d'important de montrer notre engagement. Moi, je suis quelqu'un de très proactif, j'aime bien m'engager dans diverses choses. Et pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence sur le marché du travail, sans les soft skills.
Mais alors, vous étiez déjà comme ça avant ? On a développé vos capacités, ou vous étiez quelqu'un de timide à qui il a fallu apprendre les choses. Vous l'avez vécu comment, cet enseignement ?
Pour moi, c'est vrai, elles ont vraiment été développées. Je n'étais pas timide, j'étais pareil, juste que mes capacités, mes soft skills ont été développées. Ça m'a permis de me rendre compte de ce que les entreprises attendaient et ce que moi je pouvais leur offrir.
Et vous avez le sentiment que c'est un plus vraiment après pour votre formation, pour votre recherche d'emploi ultérieurement?
C'est vraiment un plus parce que, comme on le disait juste avant, tout le monde sort d'une formation avec le même diplôme et c'est vraiment sur les soft skills que ça va jouer.
Sophie Golfier.
Alors vous posiez la question de la structuration des soft skills au sein de l'école en fait. Alors comment ça se passe? Cette année, on commence à mettre en place un programme qui s'appelle Explore. Ce programme Explore cartographie les différentes soft skills, quels sont les besoins des entreprises d'un point de vue transversal. À partir de là, on va les faire d'ailleurs valider avec les entreprises, hein, on a prévu un temps à ce sujet. Et à partir de là, on va faire travailler nos étudiants pendant les 3 années pour identifier sur quelles soft skills ils peuvent se positionner ou les développer. Donc ça, oui, ça s'acquiert et ça se développe, ça c'est important, et on peut les mesurer. Donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc Marius aura la chance de bénéficier de ce programme à partir de cette année.
C'est vraiment la spécificité de l'EGC ou il y en a également d'autres dans l'enseignement, dans la manière dont ça se pratique, dans l'alternance peut-être?
Alors nous avons 4 parcours à l'EGC, le parcours présentiel classique, le parcours en alternance que va suivre Marius l'année prochaine, un parcours entrepreneuriat où les jeunes en même temps que leur diplôme peuvent créer leur entreprise. Alors on a commencé avec un étudiant il y a 3 ans, aujourd'hui on a 3 étudiants dans ce parcours, donc ça c'est quelque chose de formidable pour eux. Et également un parcours en double diplôme en Australie qui est un petit peu mis à mal actuellement avec le Covid.
Comment ça se forme les étudiants? Quel est votre, par rapport à un professeur classique, va-t-on dire, à l'université, ou quelle est la différence pour vous?
C'est vraiment d'abord l'expérience. Moi, j'ai fait une quinzaine d'années en direction financière. J'avais ma société depuis 6 ans et l'idée, c'est de partager déjà l'expérience avec les étudiants, les apprenants. Les anecdotes, ils aiment beaucoup. Ça permet de les accrocher tout de suite, de captiver
le... Ça leur donne un contact avec le monde réel, quoi.
Exactement. Et vraiment, voilà, valoriser vraiment cette expérience, et c'est ce qui leur plaît. Moi, je le sens. Et voilà, pour avoir aussi un mode d'enseignement moins classique, un petit peu moins classique. Et en tout cas, il y a des très, très bons retours des étudiants et je sens que ça prend bien, en tout cas.
L'originalité de l'EGC, c'est notamment son lien particulier avec les entreprises. Vous le disiez, créé par la CCI. Vous gardez aujourd'hui beaucoup de liens avec le monde de l'entreprise. Ça aussi, je pense que c'est essentiel parce que notamment, vous essayez de coller un peu aux besoins des entreprises aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles vous demandent?
Oui, alors, il y a 2 choses. Donc, il y a l'innovation pédagogique. Hein, donc, ça, c'est le premier point. L'innovation, ce n'est pas innover pour innover. C'est innover déjà pour les étudiants, pour qu'ils puissent apprendre et apprendre. Hein, et en même temps, on développe des programmes innovants, comme le SBD, le plan stratégique de développement, qu'on
va évoquer
tout à l'heure, en anglais aussi.
On en parlera tout à l'heure, oui.
On en parlera tout à l'heure. On a d'autres types d'innovation pédagogique. Donc ça, c'est important, hein, dans les modalités. Pour répondre à votre question sur les besoins, les entreprises, oui, nous expriment leurs besoins, clairement. Donc les métiers évoluent. Il y a des nouveaux métiers qui vont évoluer. Il y a le digital, évidemment, ça on le sait tous, hein, qui a intégré les différentes fonctions. Donc le manager, c'est un manager digital. Le marketing, c'est le marketing digital. Donc le digital a irrigué tous les métiers. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on forme nos jeunes avec ces spécificités. Et des nouveaux métiers que l'on ne connaît pas forcément, mais des métiers qui peuvent émerger, comme par exemple la croissance bleue, pourquoi pas, la croissance verte aussi. Donc ça, c'est très important pour l'école, d'être connecté aux réalités d'un pays, des enjeux économiques du pays, pour le développement du territoire. Donc, je pense notamment à l'agriculture, bien sûr, et à l'économie.
C'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, que vous faites un cursus en 3 ans. Comment vous arrivez à adapter parce que, bon, on le voit bien surtout ces derniers temps, le monde évolue très vite, les choses bougent, on n'a pas vu arriver le Covid. Donc, comment est-ce qu'on fait pour adapter un enseignement à une économie dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir et comment elle va être?
Alors, j'ai envie de dire, c'est la chance du réseau EGC, dans le sens où on a une maquette classique, c'est-à-dire on a un programme pédagogique global dans l'ensemble des EGC. Nous avons 23 EGC. En métropole et dans les différents territoires d'outre-mer. Donc, on a, et dans ces cours-là, on peut innover. C'est-à-dire que, par exemple, on a un module qui s'appelle Enjeux économiques du territoire. Donc, dans ce module-là, on se connecte aux acteurs de l'économie de Nouvelle-Calédonie. On a travaillé avec le gouvernement, avec les provinces, avec les clusters pour adapter les besoins. Donc, l'année dernière, on a fait un séminaire sur l'innovation territoriale. Cette année, ce sera sur l'économie sociale et solidaire. Ce sont des thèmes majeurs pour l'économie. Donc, on a des possibilités dans le cadre de nos programmes d'évoluer. Et par rapport aux métiers, les soft skills font partie de l'évolution des métiers.
Vous avez également des parrains, des entreprises qui parrainent l'EGC tous les ans. Pourquoi? Quel est leur rôle? Quel est leur intérêt pour eux et pour vous?
Alors, un fort intérêt pour nous, et pour eux certainement, on l'espère. Donc, on a une trentaine d'adhérents, hein, entreprises, différents types d'entreprises, petites, grosses, moyennes entreprises, tout type d'entreprises, tout secteur. L'objectif pour eux, c'est de se connecter vraiment à l'éducation, à nos étudiants. Ça leur permet de repérer les talents de demain, de recruter au niveau des stages, au niveau des alternants. Et ça leur permet également de créer du réseau avec nos étudiants. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. De les accompagner, du tutoring, du mentorat. Ça, c'est important aussi. Et pour eux, donc, d'avoir des recrues par la suite sur la Nouvelle-Calédonie.
Vous les choisissez comment ? C'est eux qui sont volontaires ? C'est vous qui les cherchez ? Vous les ciblez particulièrement, vos parrains ou... Ça dépend
les deux, à la fois ils viennent vers nous parce qu'ils nous connaissent avec les actions que l'on mène ensemble, notamment dans le cadre des différents projets que l'on mène, l'innovation, start-up, etc. Mais aussi, nous allons vers eux dès qu'on sait qu'il y a un thème assez majeur.
Alors vous nous parliez de la croissance bleue, de la croissance verte, mais de la croissance bleue. On va parler de la croissance bleue, puisque Philippe Darasson du cluster maritime est avec nous. Ça recouvre quoi déjà la croissance bleue ?
La croissance bleue ou l'économie bleue ou l'économie de la mer, en fait, le terme importe peu. L'important, c'est les activités économiques qui tournent autour de la mer. Et en Nouvelle-Calédonie, très clairement, l'économie calédonienne ne s'est peu préoccupée de l'économie maritime et de l'économie bleue jusqu'à présent.
C'est quand même paradoxal pour une île.
C'est quand même paradoxal. On connaît beaucoup mieux les sports nautiques et les îlots que l'activité économique liée à tout ça. Et le lien, alors que le lien existe très bien, puisque bon, l'économie minière, on la connaît, mais en même temps, s'il n'y a pas de maritime, il n'y a pas de nickel non plus, puisque tous les transports se font par voie maritime, par exemple, donc c'est des entretiens de chalands, etc. Donc tout ça fait que c'est plus une activité qui était jusque-là mal perçue ou peu connue. Et justement, un des objectifs du cluster maritime, donc pour valoriser les activités de la mer, c'est de se rapprocher d'une école comme le GC. C'est qu'on est absolument convaincu que pour que cette économie maritime prenne corps, il faut que les jeunes et la jeunesse s'emparent de ce domaine-là. Et donc, on a toute une partie de notre politique qui est une politique de, entre guillemets, de sensibilisation, d'éducation aux choses de la mer, qui a beaucoup manqué en Nouvelle-Calédonie et sur lesquelles on a pris pas mal de retard. D'où l'intérêt pour nous de se rapprocher, par exemple, de l'EGC, avec laquelle on travaille depuis 3 ans, hein, je crois, maintenant, c'est ça. On a même signé une petite convention pour essayer d'établir des bases de collaboration. On est systématiquement présent dans les jurys de l'EGC, dans les Welcome Week, excusez-moi pour l'expression anglaise, Elisabeth. Mais je veux dire par là qu'ils participent à nos journées de la mer chaque année. Donc tout ça, c'est une vocation de sensibilisation aux choses de la mer. En dehors de l'EGC, on est aussi en relation proche avec l'université, mais également avec le vice-rectorat. On commence à évoquer, à travailler sur des classes de la mer. Tout ça pour dire que, pour s'intéresser à ce que pourra donner le potentiel maritime de la Nouvelle-Calédonie, encore faut-il savoir de quoi il est constitué et de faire passer ces messages-là aux jeunes pour qu'ils puissent identifier dans leur cursus vers où ils pourraient aller dans le domaine maritime.
La gestion et le commerce et la mer, c'est quoi ? Quels sont les métiers qui correspondent à ça ?
Oh, il y en a. Enfin, on peut en citer beaucoup, hein. Mais l'important, je crois que c'est plus que de travailler sur des filières. On connaît particulièrement bien les filières de la pêche, de l'aquaculture, ces domaines-là. Mais il faut pas oublier aussi tout le domaine de l'innovation et en termes d'innovation, le territoire est très très bien placé dans l'innovation maritime. Je vais prendre un exemple. On a décrété qu'on était les dépositaires d'un parc naturel absolument merveilleux avec des ressources incroyables. À protéger à tout prix, et j'ai évoqué le mot protection. Maintenant, comment fait-on pour protéger le parc naturel maritime ? Et là, il y a tous les métiers qui souffrent de la surveillance maritime. Actuellement, il y a des startups qui travaillent sur la surveillance conjointe entre le satellite, entre des drones marins, en collaboration avec l'État pour la surveillance maritime, avec des bouées connectées. Donc, il y a toute une partie innovation startup qui va donner les métiers de demain. Donc, on est réellement sur quelque chose en cours de création. Et au-delà de ça, je prendrai l'exemple également de ce qui se passe en Australie. L'Australie a passé commande de quelques dizaines de sous-marins, et eux, on se dit, les sous-marins, ils vont se fabriquer en Australie. Mais nous, on s'est dit une chose complètement différente, c'est-à-dire quels sont les métiers qui vont être nécessaires pendant 60 ans, c'est quand même un sacré contrat, qu'on possède en Nouvelle-Calédonie, ou qu'on pourrait développer, puisque là, le temps nous le permet. Et donc, on est dans une phase d'identification de nos capacités déjà actuelles et de mise en place de programmes de formation pour pouvoir aboutir à des métiers qui vont compléter les équipes de construction d'un sous-marin nucléaire, de ce type-là. Donc voilà, beaucoup d'exemples qui tournent autour de métiers qui pourront émerger. Et donc, on souhaite absolument que la jeunesse calédonienne soit au courant, d'où notre partenariat avec l'EGC.
Marius, la mer, ça vous intéresse ? La mer, c'est pas forcément le secteur que vous allez choisir.
Ben moi, la mer, ça m'intéresse beaucoup, mais je découvre un peu la vie. je découvre un peu beaucoup de choses, et à la fin, je pense me diriger vers quelque chose en particulier. Mais la mer, c'est vrai que c'est intéressant, et je pense que c'est le futur et c'est demain.
Sophie Golfier, ça impose ou ça vous a ouvert des horizons pour des formations particulières ou pour adapter certaines filières de l'EGC, cette économie bleue?
Alors oui, il y a plusieurs choses déjà dans ce qu'évoque Philippe, c'est l'EGC peut aider à travailler sur des projets. Alors quand il y a des structurations, faire des études de marché, faire différents éléments qui aident au-delà du métier, on va dire, pour accompagner. En termes de métier et de formation, oui, on réfléchit depuis quelques années à la Chambre de commerce sur un master, sur différentes formations. Et donc la thématique mère fait partie des sujets qui ont été fortement évoqués, bien entendu.
Et alors, on évoquait l'économie verte, ça peut être également l'un des secteurs sur lesquels vous allez vous développer, vous tourner?
Alors oui, bien sûr, c'est important. On a travaillé aussi avec notamment le cluster Capagro et différents partenaires du secteur agricole. C'est essentiel aussi, puisque là, on est dans la problématique de l'autosuffisance alimentaire. On connaît les chiffres faibles en Nouvelle-Calédonie et l'objectif de Nouvelle-Calédonie pour arriver à une autosuffisance alimentaire plus forte. Donc là, bien sûr, on peut aussi travailler pour accompagner des projets, pour former dans ces métiers-là.
Donc encore beaucoup de domaines de développement et d'expansion pour l'école.
Toujours plein, oui.
Vous développez aussi de nouveaux programmes. On a parlé de le SBD. Alors, Jean-Christophe Rambeau, qu'est-ce que c'est que le SBD ?
C'est la même, encore un mot anglais, le Strategic Business Development. Voilà. Donc, programme de 4 mois de GC, où nos élèves de 3e année endossent la casquette de consultant et, intègrent des sociétés qui ont été sélectionnées via un appel à projet. Et en tant que consultant, se doivent de poser un diagnostic. Développer des axes de développement, tout ça pour arriver à un livrable devant un jury composé d'élus de la chambre et de professionnels. Je sais que Philippe de temps en temps est jury. Et l'idée concrètement, le plus simplement possible, c'est que nos étudiants arrivent à faire les synergies sur tout ce qu'ils ont appris durant les 2 premières années et arrivent à les appliquer au travers d'un diagnostic vraiment en tant que consultant et pouvoir relever des points de difficulté des entreprises et proposer effectivement des axes de développement et créer une valeur ajoutée pour ces entreprises.
Ça se fait en concertation avec le chef d'entreprise, on imagine ?
Bien évidemment, il y a une rencontre, il y a des rencontres mensuelles. L'idée, c'est déjà de connaître un peu qui est l'entrepreneur. Les étudiants récupèrent le maximum de données qu'ils peuvent sur différents plans. Donc effectivement, le diagnostic n'est pas que financier, pour ma partie. Il est marketing, commercial, RH des fois. Et l'idée, c'est vraiment de mettre cette société à plat et de voir si problème il y a ou si gros problème, d'où est-ce qu'il vient. Et après, pouvoir partir. Donc là, cette année, on va développer un nouveau volet par rapport à la première édition. Ça va être un volet projection, c'est-à-dire s'il y a quelque chose à faire, on va se projeter dans les chiffres, se projeter dans le futur, regarder un peu la rentabilité de ces futurs investissements et voir si c'était en capacité d'accueillir, d'accepter, de supporter ces nouveaux coûts.
Vous n'avez pas encore fini complètement le système dans son... On n'est pas encore arrivé dans des entreprises aux conclusions du consulting et aux réponses à apporter, ou ça a déjà été fait quelquefois?
Non, on tend. Voilà, le programme a été créé l'année dernière. Hein, l'année prochaine, ça sera la 2e édition. Donc, on se perfectionne, on améliore, bien évidemment, mais voilà, l'idée, c'est d'avancer sur ce programme.
Sophie Golfier.
Alors, ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que c'est une innovation pédagogique. Alors, en quoi le fait que différentes matières sont axées sur ce programme? C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un cours. Là, on voit directement l'application. On est dans ce qu'on appelle le learning by doing. Les étudiants apprennent en faisant. Donc, les cours sont orientés en fonction d'un parcours et d'un programme. La deuxième innovation, c'est que les jeunes puissent avoir endossé ce rôle de consultant. Donc, une posture différente, un regard différent, et qui sont en contact, bien entendu, avec les professionnels, avec un appel à projet qui a été fait et 8 projets intégrés.
Marius, ça vous intéresse, ce genre de formation? Vous êtes en première année encore, hein, mais vous envisagez de faire ce genre de choses?
Bah, pour moi, je trouve que c'est vraiment important de savoir allier tous nos compétences pour proposer vraiment quelque chose qui a une réelle valeur ajoutée à l'entreprise et avec la synergie de nos compétences pouvoir proposer et aider les entreprises et les entrepreneurs calédoniens.
Mais là, c'est plus qu'un rôle, ça dépasse le rôle d'un simple étudiant. Là. C'est,
oui.
Vous rentreriez déjà dans la vie active pratiquement.
Bah, c'est un peu ce que nous apporte l'EGC, je trouve.
Alors, comment est-ce qu'on y rentre à l'EGC, Sophie Gueulfier?
Alors, on y rentre, donc nous avons une promotion de 45 étudiants. On a augmenté un petit peu la promotion à cause du Covid, bien entendu, pour laisser l'opportunité aux jeunes de suivre leur formation en Calédonie. Donc, 45 places. Dans un premier temps, les étudiants doivent aller sur Parcoursup pour s'inscrire, tout simplement. Ensuite, venir à l'EGC sur place ou alors sur Internet pour déposer un dossier. L'échéance, c'est le 13 octobre. C'est ça qui est important. 13 octobre pour les premières années et les deuxièmes années. On peut rentrer directement en deuxième année. Donc, il faut savoir que les étudiants qui ont un bac plus 2 peuvent intégrer la deuxième année directement. Donc, 13 octobre.
Et pour la première année, il faut être bachelier.
Bachelier, voilà. Mais s'inscrire d'abord, puis ensuite bachelier, bien sûr. C'est obligatoire. Ensuite, on fait passer des oraux sélections. Donc, il n'y a plus de concours écrit. Il faut le savoir, c'est important dans le réseau, dans l'ensemble du réseau, avec les conditions Covid, etc. Et on est obligé de s'adapter aussi. Donc, pas d'écrit, un oral de motivation, un oral en anglais. Voilà, oral anglais et oral de motivation. Suite à ça, on définira 45 candidats admissibles.
La rentrée se fait quand ? Se fait de toute façon en février aussi comme
Alors la rentrée sera début février.
Oui.
La rentrée sera début février.
Et les sélections donc, seront connues à quel moment ?
Fin novembre.
D'accord, ils pourront passer de bonnes vacances.
Ils pourront passer très bonnes vacances pour entamer une belle rentrée.
Quel est le profil des étudiants ? Ou des candidats peut-être d'ailleurs à l'EGC ?
Alors,
qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité comme...
Oui. Alors, ce que je veux dire comme message, c'est que vraiment tout le monde peut venir. Donc il ne faut pas se mettre de frein. Je laisserai aussi Marius en parler, ça serait bien de savoir à ce moment-là comment ça s'est passé quand il était en terminale. Tous les profils peuvent venir et on a vu vraiment tous les profils. Même des littéraires, il n'y a pas de souci. Ce qui compte, c'est surtout avoir le goût. De la négociation, du commerce, de la communication, du management, avoir un intérêt pour la vie économique du pays. Ça, c'est important. Après, le profil, il faut avoir des bases en maths, pour savoir calculer, il faut avoir des bases il faut être bon en français,
en anglais,
un peu quand même. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment tenter sa chance, c'est important. Ce qui compte, c'est la motivation. Voilà. Après, c'est avec l'expérience, c'est avec les cours qui seront enseignés, où là, les jeunes vont pouvoir perfectionner leurs connaissances.
Le cursus en 3 ans ?
3 ans,
tout à fait. Ça se déroule comment ? Entre la première, la deuxième, la troisième année, on l'a vu déjà au travers de ce que vous disiez, le cursus évolue.
Oui, le cursus évolue. La première année, c'est vraiment les socles, les fondamentaux. La deuxième année, on s'entraîne, on expérimente. La troisième année, c'est la maîtrise. Et là, on parlait du rôle de consultant tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en troisième année, les jeunes sont censés être consultants. En tout cas, avoir la possibilité d'apporter un conseil, ou en tout cas un avis éclairé, évidemment, on reste dans une optique d'école, école-entreprise.
Ça termine par l'obtention d'un diplôme ?
Obtention d'un diplôme, hein, oui, pour ceux qui réussissent toutes les épreuves, puisqu'il y a quand même de nombreuses épreuves, des contrôles continus.
C'est en contrôle continu ou c'est un...
Pas que, justement. Donc, des contrôles continus, des partiels, et surtout un examen national qui fait un peu peur aux étudiants en troisième année, mais qui est important. C'est le même examen pour l'ensemble des étudiants du réseau EGC. Donc ça permet d'avoir un socle de connaissances commune à l'ensemble du réseau. Ça c'est important et c'est le gage de qualité de l'école aussi.
Et pour passer d'une année à l'autre, examen également à la fin de l'année ou...
Alors c'est les partiels continu. Et un contrôle continu. Donc je vais essayer peut-être Marius évoquer au moins quand il était étudiant, enfin quand tu étais bachelier. Comment tu as fait ce choix ? Ça serait intéressant d'avoir ton parcours au départ.
Alors moi, c'était vraiment pour connaître le tissu économique calédonien. Je voulais vraiment travailler en Nouvelle-Calédonie après mes études. Connaître un peu tous les entrepreneurs, connaître les entreprises calédoniennes, leurs besoins, ce qu'elles attendaient. Et du coup, je me suis, mon année de terminale, je me suis dit, je vais intégrer l'EGC. C'est une école qui, la seule école de commerce de Nouvelle-Calédonie. Elle avait toutes les choses que je recherchais. Elle connaissait vraiment la Calédonie et les entreprises qui la composent. Et je me suis, du coup, j'ai passé les concours. J'ai candidaté pour les oraux pour s'inscrire à l'EGC. En novembre, on m'a contacté pour me dire que j'étais prêt à l'EGC, j'attendais plus que l'obtention de mon baccalauréat. J'étais en terminale STMG SPRH et du coup, depuis le début de l'année, je suis très bien à l'EGC. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie.
Ça correspond à ce que vous attendiez.
Ça correspond vraiment à ce que j'attendais et on rencontre beaucoup de personnes, c'est vraiment bien.
Vous avez appris beaucoup de choses dans l'année ?
J'ai appris beaucoup de choses. Cette année, surtout sur... je me suis développé, en fait, moi-même. Mes soft skills sont développés, mes connaissances aussi, je pense.
Et le monde de l'entreprise, comment est-ce qu'il voit cette école, Philippe Darasson ? Vous y êtes associé d'assez près, mais est-ce que les chefs d'entreprise calédoniens vont recruter volontiers des jeunes issus de l'EGC. Est-ce que c'est un plus sur un CV?
Je n'ai pas le droit de dire non, hein, j'imagine. Hein. Non. Non, mais je suis quand même... On est quand même non convaincus en tant que chef d'entreprise. Ce qu'on recherche justement, c'est des jeunes qui soient non seulement formés, mais en même temps qui aient une véritable connaissance de l'entreprise et du monde de l'entrepreneuriat. Donc le fait qu'ils puissent être soi-même, eux-mêmes, des auto-entrepreneurs, et ça fait partie du programme, mais surtout qu'ils aient pu, au fil de leurs études, être au contact du monde de l'entreprise, de manière à avoir des jeunes, encore une fois, qui soient bien formés théoriquement, mais en même temps qu'il y ait déjà une pratique de l'entreprise et qu'ils puissent s'intégrer rapidement. Je pense que ce format Bac plus 3 à l'EGC, par rapport aux besoins des entreprises calédoniennes, répond particulièrement bien à ce qu'on recherche.
Même si après l'EGC, on peut poursuivre ses études, ça, c'est un besoin pour beaucoup, ou la plupart, avec leur diplôme de l'EGC en poche, ils peuvent d'ores et déjà intégrer une entreprise?
Alors déjà, ce que je voulais préciser, c'est que notre corps professoral est composé à 80% de professionnels en entreprise. Donc, ce qui est enseigné correspond à la réalité du terrain. Donc, ça, c'est important. Pour la suite, oui, on a jusqu'à présent environ 70% des étudiants qui poursuivent en master à l'extérieur. En revanche, on a fait l'étude, parce que tous les 6 mois, on fait une étude après les diplômés. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a que 30% qui sont partis à cause du Covid. Et on a 70% des étudiants diplômés en 2020 qui sont actuellement en poste en Nouvelle-Calédonie avec plus de 50% en CDI. Donc, ce que je veux dire, c'est les tendances, ben forcément, hein, qui sont, mais qui, voilà.
C'est important pour un jeune quand il rentre dans une école de se dire que, a priori, 70% vont trouver un emploi, vont pouvoir travailler dans une entreprise calédonienne. Ça compte quand on choisit une école?
Ben, je pense que ça compte beaucoup parce que c'est réconfortant de se dire que ben, nos années d'études servent à quelque chose, que je vais pas vraiment galérer à trouver un travail après, et surtout, je trouve que c'est plus une sécurité. C'est vraiment Dans un monde qui change, c'est vraiment bien, je trouve.
Une école qui a 36 ans, on le disait au début, ça crée forcément un réseau d'élèves. Ça sert à quelque chose aujourd'hui?
Alors oui, nous avons un beau réseau, puisque nous avons ce qu'on appelle des alumni, toujours. toujours. 700, hein, 740, donc c'est un beau réseau. On a une association des anciens, qui est assez active, qui est toujours présent, qui répond toujours présent pour différents réseaux, enfin différents événements. Et on est en train de construire encore des liens avec eux pour aller un peu plus loin. Donc oui, ça compte. On s'aperçoit que les personnes, les anciens, sont en poste en Nouvelle-Calédonie, ont des fonctions à responsabilité. On a à peu près 15% d'entre eux qui sont des créateurs d'entreprises ou des chefs d'entreprise. La plupart d'entre eux sont soit dans le secteur de la finance, soit du commerce, oui, essentiellement, c'est les principaux. L'enseignement aussi, quelques personnes en enseignement atypique. Et ensuite, c'est dans différentes fonctions.
Alors, ben, on va peut-être rappeler maintenant, qu'est-ce qu'un jeune qui vous écoute, qui est en terminale, même en première, qu'est-ce qu'il doit faire s'il a envie d'intégrer l'EGC?
Il doit être motivé. Évidemment, à 17 ans, il n'est pas obligé de savoir ce qu'il va faire dans 5 ans, parce que peu de personnes savent ce qu'ils vont faire dans 5 ans aujourd'hui. On est dans des délais beaucoup plus courts de perception. Il faut avoir une certaine forme d'adaptabilité. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils soient motivés pour poursuivre un enseignement supérieur, un enseignement dynamique, actif, avec un grand réseau, avec des professionnels, avec beaucoup d'échanges. Donc, il a envie de contribuer, de participer.
Voilà. Et il faut qu'il remplisse son dossier d'inscription.
Ça, le dossier d'inscription, avant le 13 octobre, toujours.
C'est où, comment? Il va sur le site
Site internet de la CCI.NC, tout simplement, CCI.NC, page EGC. Sinon, il vient nous voir, 14 rue de Verdun, c'est tout simple, centre-ville, hein, pas compliqué, chambre de commerce. Il peut nous passer un petit coup de fil aussi, 24 31 40, comme ça je vous dis tout. Et en termes de soft skills quand même, là les soft skills aujourd'hui, si ce jeune-là a envie d'apprendre à apprendre, c'est important. S'il a le sens de l'adaptation, c'est important. S'il a la créativité, mais qu'il vienne.
Marius, vous le conseilleriez à des jeunes aujourd'hui?
Je pense que je le conseillerais aux jeunes qui sont vraiment motivés, qui ont vraiment envie de revenir travailler en Nouvelle-Calédonie. Ceux qui veulent vraiment connaître, comme je disais, le tissu économique calédonien comme moi, venez vous inscrire à l'EGC, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Et c'est exactement ce que moi j'ai besoin.
Ben voilà, que rajouter à ça. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce Jeudi de l'économie qui nous a permis de faire mieux connaissance avec l'EGC, Sophie Golfier, Marius Baudet-Houarou, Jean-Christophe Rambeau, Philippe Darasson. Merci à tous les 4.
Merci.
C'est la fin de ces Jeudis de l'économie. Je vous rappelle que vous pourrez les retrouver en podcast audio dans quelques instants sur notre site internet. Et à 13h, c'est votre prochain rendez-vous d'information. Excellent après-midi.